l'UNICEF travaille depuis 2002 à une plus grande parité entre hommes et femmes dans la sphère professionnelle. Pour ce faire, notre action, elle se traduit par il y a plusieurs volets. Donc la première action, c'est auprès des pouvoirs publics. Voilà. Donc en ce moment, on a eu une grosse actualité avant le Covid sur un projet de loi. Donc on travaille main dans la main avec différentes associations pour faire valoir nos positions. Puis aussi, on a un week-end dédié à l'entrepreneuriat féminin. On a des rencontres avec des patrons, les petits déjeuners GEF, dont certains et certaines sont sûrement des habitués, et qu'on a remplacé aujourd'hui par ce webinar. Et puis, on a aussi des études de fond qui sont toujours en point sur ces questions. Et depuis plusieurs éditions, nos études ont vraiment gagné en profondeur grâce au cabinet TAI, dont vous allez pouvoir apprécier la pertinence et l'intelligence du propos au travers de la voix de Marion. TAI, ce sont donc maintenant des e-philosophes qui peuvent intervenir au sein des entreprises et des organisations dans un cadre dématérialisé. Donc alors Marion, maintenant c'est à toi, et qu'est-ce que tu peux nous dire sur est-ce que la crise change-t-elle vraiment le sens du travail ?
Merci beaucoup Hortense, merci à toutes et tous de vous être convertis digitalement avec nous pour ce petit déjeuner un peu spécial ce matin. J'ai d'autant plus la pression que Hortense a annoncé que on était des philosophes pertinentes, et qu'en plus normalement ce sont plutôt des grands patrons que vous accueillez à l'occasion de ces petits déjeuners. Donc je pensais pas qu'un jour je pourrais me substituer modestement à la parole d'un grand patron, mais je vais faire office de philosophe puisque c'est ce que je sais faire ce matin. Peut-être un tout petit point technique pour que ça se passe bien pour Hortense qui va modérer, parce que moi je vois s'afficher sur mon écran deux options possibles de conversation, le conversé qui est vraiment le chat habituel et le Q&R. Donc ce que je vous propose, c'est que pendant mon intervention, vous vous sentiez libre d'écrire peut-être plutôt sur le petit fil Q&R, donc question-réponse, et non pas conversé, pour que Hortense n'ait pas à jongler entre deux fils de conversation, d'autant que comme elle est sur son téléphone portable, ça sera probablement un exercice un peu compliqué. Donc si vous en êtes d'accord, on va garder un fil de conversation, et je vous propose que ce soit le fil Q&R et non pas le fil conversé. Voilà, dans lequel vous pouvez mettre vos commentaires, des réactions, des questions, évidemment, puisque c'est ce que Hortense me relaiera ensuite. Voilà, donc je vais garder la parole un bon quart d'heure sur cette question qu'on a choisie avec Jeff ce matin, et puis ensuite Hortense me relaiera vos interrogations ou vos éventuelles réactions. Donc on est parti de cette question qui, j'imagine, nous occupe toutes et tous à des degrés divers, à savoir est-ce que la crise qu'on vit actuellement, alors est-ce que toute crise, mais est-ce que celle qu'on vit actuellement change le sens du travail. Évidemment, la question mérite d'être posée puisque le propre d'une crise, c'est de redistribuer les cartes des priorités, parce que ça fait apparaître une crise, ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Donc, de fait, beaucoup d'organisations, et probablement les vôtres, se sont réorganisées et vont continuer de le faire pour continuer à fonctionner. Mais d'une certaine façon, moi, ce que j'ai pu observer, en tout cas chez mes clients ou les clients avec qui je suis en conversation ces deux derniers mois, eh bien, d'une certaine façon, cette crise a déjà fait son œuvre, si je puis dire, en frappant d'inutilité tout ou partie de certains métiers. De telle sorte que vous avez sans doute déjà entendu parler des bullshit jobs, puisque c'est un concept qui a été forgé par l'anthropologue américain David Graeber. Eh bien, on peut avoir l'impression que finalement, cette crise a condamné certains métiers, ou en tout cas des aspects de certains métiers, à devenir un peu bullshit, de telle sorte que voilà, on est dans une situation qui, je trouve, repose une question fondamentale pour notre modèle de société. Est-ce qu'un métier qui ne crée pas de valeur n'a pas de valeur ? Donc, en fait, à travers cette question, ça questionne vraiment le sens du travail, à savoir est-ce que le travail a du sens, et si oui, évidemment, lequel. Alors, je voudrais, avant d'en venir à cette question du sens du travail, quand même nous dire deux mots du sens de la crise. Puisque si on est dans une crise de sens, il ne faudrait pas oublier de donner du sens à la crise. Alors, le mot de crise, qui est assez galvaudé, parce qu'on l'utilise dans tout un tas de contextes, il vient du latin médiéval, crisis. Voilà. Chrysis avec un C. Et ce latin-là est en fait issu du grec chrysis avec un K. Voilà. Et ça veut dire littéralement critique, en fait. Donc c'est un terme, la crise, qui appartient nativement au champ médical, pour dire le moment critique, hein, moment critique d'une maladie, et au champ juridique, pour dire l'examen critique. Et donc les deux usages du terme respectent le sens du verbe étymologique, krinein, hein, du grec, juger, discerner, interpréter, séparer, trier, c'est tous ces sens-là qu'il y a dans le verbe krinein, critique, pour décider. Voilà. Donc la crise, c'est un moment décisif. C'est pour ça qu'on dit de la crise que c'est un moment voilà, qui décide de l'avenir. C'est parce qu'il y a cette étymologie-là dans le mot. Et c'est aussi pour ça que la crise, toute crise, comporte toujours une dimension existentielle. Parce que donc elle révèle, comme je le disais, une part de vérité, d'essentiel, en même temps qu'elle ébranle le sens des choses qu'on pensait acquises ou certaines. Alors, évidemment, comme le travail est une part importante de notre vie, eh bien, c'est une activité qui n'échappe pas à cet ébranlement et qui a peut-être même toutes les chances d'être le premier à être touché. Or, se demander si la crise affecte le sens du travail, vous entendez bien que ça présuppose que le travail doit avoir un sens, ou qu'il en a un. Et donc, ça nous renvoie incidemment à la question du sens de la vie, puisque, encore une fois, on consacre une part non négligeable de notre vie au travail. Et si le travail devait ne pas avoir de sens, la question, ça deviendrait, pourquoi est-ce qu'on consacre tant de temps à une activité insensée ou absurde? Alors, ce qui m'intéresse, c'est que, même si les philosophes sont connus pour être en quelque sorte les gardiens du sens, certains n'ont pas manqué de défendre que la vie et a fortiori le travail n'ont pas de sens. N'ont pas de sens en soi, en tout cas. C'est le cas de Nietzsche et de Camus. Chez Nietzsche, la vie est sans pourquoi, au sens où sans finalité, hein, au sens où le monde, alors je reprends un peu ces mots parce que c'est très poétique, Nietzsche, on aurait tort de s'en passer, le monde est un monstre de force, un chaos ouvert de l'intérieur par un devenir sans terme ni but. Voilà. Et donc, dans ce monstre de force-là, pour Nietzsche, l'homme est comme un fragment, voilà, un éclat, un chaos dans le chaos, nous dit-il, ou une étoile qui danse, pour encore une fois emprunter à sa poésie. Et donc, il n'y a pas de sens dans la vie, nous dit Nietzsche. Le sens, c'est quelque chose qui est inventé, c'est une invention de l'esprit humain. Et donc, dans le sillon de Nietzsche, eh bien, on a Albert Camus, chez nous, en France, un peu plus contemporain, qui va explorer la notion de l'absurde. Et je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le lire, mais si ça n'est pas encore fait, il n'est pas trop tard, le mythe de Sisyphe. C'est absolument formidable. Camus essaye de raconter ce face-à-face entre le silence du monde et la demande éperdue de sens et de clarté que lui adresse l'homme. Et donc pour Camus, l'absurde, c'est la découverte que, pour le dire de manière un peu triviale, la découverte que le monde n'est pas là pour nous faire plaisir. Donc, l'absurde, chez Camus, c'est l'épreuve de l'indifférence la plus totale du monde à l'égard de l'homme. Alors, peut-être que certains, devant l'expérience qu'on a faite de ce virus, ont pu avoir cette impression qu'au fond, la nature, vraiment, est tout à fait indifférente à l'existence de l'homme. En tout cas, après avoir écrit le mythe de Sisyphe, eh bien, Camus a dû très souvent répondre de sa main aux lettres de jeunes gens désespérés, qui lui réclamait une raison de vivre, du coup. Hein. Et c'est ce qui a amené Camus à penser le suicide, qui était selon lui le seul problème philosophique sérieux. Mais chez Camus, l'absurde n'est pas synonyme de désespoir. Hein. Au contraire, vous verrez Sisyphe, son personnage, hein, donc vous savez, c'est cet homme qui est condamné à rouler le même rocher en haut d'une montagne et qui, une fois au sommet, en redescend invariablement. Voilà. Eh bien, Camus nous dépeint un Sisyphe qui aime son monde, sans raison. Voilà. Donc, il y a vraiment cette idée qu'accepter l'absurdité de la vie, c'est simplement apprécier d'être vivant. C'est un petit peu ça la conclusion de Camus. Alors, j'ai trouvé, en préparant cette réflexion autour de ce thème ce matin, je suis retombée sur un très beau vers du poète René Char qui vient bien en écho avec cette question de est-ce que la vie, a fortiori le travail, ont du sens? et de cette idée de l'absurde peut-être qu'il peut y avoir parfois dans l'existence. Et René Char nous dit, le réel quelquefois désaltère l'espérance, c'est pourquoi contre toute attente l'espérance survit. Voilà, on attend quand même, on espère qu'il y a un sens quelque part. Alors, bon, moi je me suis dit quand même qu'en tant qu'être humain, nous ayons besoin de sens pour vivre, si je laisse mes amis Camus et Nietzsche derrière moi, qu'en tant qu'être humain, donc on ait besoin de sens pour vivre, tout le monde l'admettra aisément. Je pense qu'on fait tous l'expérience que le sens participe de l'essentiel de notre existence. En tout cas, c'est le constat tristement empirique qu'il a été donné de faire à Viktor Frankl, c'était un psychiatre juif rescapé des camps de concentration. Frankl écrit sur son expérience des camps, et la thèse principale qui en ressort, c'est que ceux qui ont survécu sont ceux qui ont pu donner un sens à ce qu'ils subissaient. Mais donner quoi au juste ? Quand on dit donner du sens à quelque chose, si tant est que le travail n'en est pas en soi, par exemple, et qu'il faille lui en donner, on donne quoi ? Alors, je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que, il suffit de regarder le dictionnaire. En France, en français, en tout cas, le mot sens est polysémique. Le mot sens a trois sens, si je puis dire. Le premier, c'est le sens comme sensation corporelle. Le deuxième, c'est le sens comme direction. Et le troisième, c'est le sens comme signification. Et de ces trois sens, si je puis dire, c'est évidemment le dernier, le sens comme signification, qui est le plus important, qui nous préoccupe le plus, parce qu'il commande tout simplement les deux autres. Si on n'avait pas la capacité de donner une explication à nos actions, à la vie, la possibilité même d'une direction serait inexistante, et le fait de sentir le monde serait tout à fait indifférent. On aurait peut-être même à peine conscience. Donc, donner du sens, c'est pouvoir dire quelque chose du monde, parler des phénomènes, s'en faire une idée et la partager. Comment est-ce qu'on fait ça ? Et c'est important pour nous aujourd'hui, je vais aussi profondément dans le questionnement parce que je pense que c'est important pour nos organisations aujourd'hui. Comment est-ce qu'on donne du sens? Comment est-ce qu'on dit quelque chose de ce qu'on est en train de vivre? Et bien d'abord par la capacité à questionner. Ça a été dit hein, beaucoup ces dernières semaines, la crise a d'abord un effet de sidération qui fait qu'on n'est pas toujours capable de bien se questionner sur ce qu'on est en train de vivre et de bien se questionner en tant que manager ou en tant que dirigeant. Et donc, la possibilité de redonner du sens vraiment à ce qu'on est en train de vivre, c'est de renouveler, c'est de retrouver, de remettre en mouvement cette capacité à questionner. Parce que les choses ne font vraiment sens pour nous que lorsqu'on a la possibilité de formuler un pourquoi en un mot, et ça c'est la question de la cause, d'où ça vient, et un pourquoi en deux mots, pourquoi, ça c'est la question de la finalité. Où est-ce qu'on va maintenant avec ça? Donc, ces deux questions, évidemment, à ces deux questions, la réponse vient souvent ultimement sous la forme de valeurs, pas toujours, mais en tout cas, c'est cette idée que quand on commence à se poser cette question, et notamment par temps de crise, eh bien, on vient recontacter les valeurs fondamentales. Et c'est un double questionnement, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots, qui vaut pour le travail, dont de nombreux philosophes et plus récemment des psychologues ont montré qu'en fait, il est un haut lieu du sens. Parce que le travail est toujours empiriquement, et là j'en viens, je veux dire, en deçà de tous les métiers spécifiques, tout ce que nos métiers ont en commun, si on y réfléchit, c'est que d'abord, c'est une confrontation à un réel qui résiste. Le travail, c'est une épreuve transformatrice de soi-même et du monde. Ce qu'on fait tous en travaillant, c'est ça, ultimement. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire du travail que c'est une activité psycho-anthropologique, pardonnez-moi pour le mot un peu verbeux, mais ça veut dire que c'est une activité qui caractérise l'humanité en général, anthropologique, et qui contribue à façonner notre individualité en particulier. C'est pour ça que c'est aussi psychologique. Hein. Et ça, c'est ce que dit, je trouve, admirablement une formule du philosophe méconnu malheureusement, Emmanuel Mounier. Mounier nous dit « Tout travail travaille à faire un homme en même temps qu'une chose. » Tout travail travaille à faire un homme en même temps qu'une chose. Donc c'est limpide, ça veut dire que travailler, ça consiste jamais en exécution pure et simple de tâches. Hein, travailler, c'est rencontrer des situations réelles qui sont pleines d'inattendus, d'incidents, d'anomalies, d'incohérences, qui viennent provoquer notre intelligence, notre sensibilité et notre imagination, et ce faisant, révèlent notre singularité. Donc, encore une fois, exécuter purement et simplement une action ne suffit pas à donner du sens au travail. Et si c'était le cas, eh bien, rien ne nous différencierait des machines. Donc, si tout travail ne devait avoir de sens qu'à proportion de son caractère productif, pardon de vous dire que peu d'entre nous, à commencer par moi, pourraient s'enorgueillir d'être essentiels ou indispensables, sinon à la société, du moins à leur entreprise. Donc, l'évidence que cette crise, je pense, nous rappelle, c'est que peut-être on avait fini par confondre ce qui est utile avec ce qui a de la valeur. Ou plutôt, peut-être qu'on avait oublié que l'utilité, c'est elle-même une valeur dont la géométrie varie en fonction des circonstances. Parce que par temps de crise, l'utilité ne recouvre plus que ce qui est vital, nécessaire et profitable peut-être au sens strictement financier. Mais lorsque cet état de survie cesse, donc lorsqu'on sort un peu de cet état de crise, eh bien l'utilité recouvre à nouveau plein de petits faits de sens, notamment improductifs, au sens de non rentables financièrement parlant, et heureusement. Parce qu'on peut difficilement, je pense, hein, vouloir vivre perpétuellement dans un état de survie qui, s'il devait dominer, nous maintiendrait tant et si bien au contact, disons, de la mort, qu'on n'aurait que faire d'aimer, lire, écrire, jouer, toutes ces choses que par ailleurs, il me semble, chacun d'entre nous apprécie fortement, pour ne pas dire qu'elles sont à leur façon vitales. Donc, ce que je cherche à dire ici, c'est que je pense qu'il s'agirait de garder à l'esprit que tout ce qui ne sera pas apparu comme étant essentiel sur le strict plan de la production, il s'agit de tout ou partie d'un travail, donc tout ce qui sera apparu comme étant secondaire n'est pas nécessairement dénué de valeur. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous proposer de cheminer avec l'idée que m'a inspiré moi le philosophe Spinoza. Si l'homme travaille, c'est aussi parce que le travail participe de sa puissance d'être, nous dit Spinoza, là, ce concept-là. Donc, l'homme travaille parce que le travail augmente son sentiment d'existence, bref, parce que d'une manière ou d'une autre, et bien qu'il y ait des degrés divers, le travail le rend heureux. Donc, il y a cette idée vraiment qui me semble importante pour nous aujourd'hui, que le sens de notre travail excède largement la production de biens ou de services indispensables à la survie de la collectivité. Si c'était le cas, si le sens de notre travail était réduit à sa productivité et sa pure rentabilité, eh bien, on serait parfaitement indifférent à la qualité des relations qu'on entretient avec nos collègues, par exemple. Et donc, en ce sens, et c'est l'idée sur laquelle je vais vous laisser pour pouvoir recueillir vos réactions et vos questions, un travail inutile, c'est pas un travail qui ne produit rien de vital, c'est un travail qui rend triste. Donc là, je suis vraiment dans la lignée de Spinoza. C'est un travail qui n'est pas source de joie pour soi-même et pour les autres. Et donc, ce que cette crise, le défi que vient représenter cette crise pour un certain nombre d'entre nous et peut-être un certain nombre de vos collaborateurs, c'est comment faire pour recontacter cette joie du travail dans des circonstances qui sont venues profondément l'ébranler. Voilà, Hortense, je m'arrête là parce que c'est pas
merci. Merci beaucoup, merci beaucoup Marion. Donc, on a effectivement des questions et je vous invite à vraiment utiliser le Q&A si vous avez envie de poser des questions à Marion, je les relayerai, ou faire part de réactions ou d'expériences, de choses que vous avez pu constater vous-même lors de cette période. Une des questions, c'est est-ce que c'est une quête individuelle, cette quête de sens, de la responsabilité de chacun, ou est-ce que l'entreprise, tu vois, quel est le rôle de l'entreprise là-dedans? Est-ce que c'est à l'entreprise de donner du sens?
Alors, il y a deux questions en une. Est-ce que la quête de sens est une quête individuelle? Mais c'est très bien parce que c'est évidemment en fonction de la manière dont on répond à la première question, on répondra pas de la même manière à la deuxième. C'est-à-dire si la quête de sens est une quête individuelle, a priori, il n'y a pas de raison pour que l'entreprise s'en charge. Si on dit que la quête de sens est une quête collective, probablement que l'organisation va avoir un rôle important à jouer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Socrate, en fait, ça fait longtemps que la philosophie nous a prouvé, quoi qu'on en pense, parce que c'est vrai qu'on a l'idée d'un philosophe qui est tout seul à son bureau en train de lire des livres et de produire du sens. Mais en réalité, l'histoire de la philosophie nous prouve que la quête de sens, c'est quelque chose de, alors pardonnez-moi pour le gros mot à nouveau, mais de dialogique. C'est-à-dire qu'on a besoin de l'autre pour pouvoir faire émerger du sens. On a vraiment besoin d'un interlocuteur. Alors, d'aucuns diraient, ben, on peut être deux en nous-mêmes. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, ça peut être aussi un dialogue intérieur, c'est vrai. Mais en fait, ça commence quand même dans le dialogue au moins avec une autre personne. Donc, il y a vraiment cette idée, et c'est pour ça que Socrate avait choisi la forme du dialogue. Hein. Ce n'est pas pour rien que Socrate philosophait en dialoguant. C'est parce qu'il avait compris que on ne fait jamais émerger un sens aussi puissant que quand on s'y met à plusieurs. C'est vraiment cette idée chez Socrate que ça ne veut rien dire avoir raison tout seul. Voilà. C'est-à-dire on ne peut avoir raison qu'ensemble. Et donc, s'il y a une vérité de la situation à faire émerger, il faut que ce soit à plusieurs. Et dans ce sens-là, je pense que l'organisation est un lieu de sens très important. Là où je pense que la crise vient nous interpeller, c'est que peut-être qu'elle nous permet de prendre conscience à quel point on ne ménageait plus suffisamment d'espace pour faire sens. Et là, on en a besoin, par contre. En ce moment, je sais que je dialogue avec tout un tas de managers qui ressentent qu'ils ont besoin de pouvoir ménager ces espaces de dialogue avec leurs équipes, non plus pour parler strictement du travail et des urgences à traiter, mais justement pour faire sens ensemble de ce qu'on est en train de vivre. Donc, voilà, ma réponse inspirée de Socrate, ce serait que la quête de sens se fait à plusieurs et que, de fait, l'organisation est un espace où cette quête doit pouvoir être organisée, accompagnée, en tout cas.
Merci, Marion. Alors, justement, c'est drôle parce que là, on en profite du digital et ça nous permet de nous retrouver quand même, même si on est tellement nombreux qu'on peut pas tous vous avoir sur l'écran. C'est une des questions qui revient. Comment est-ce que tu peux mener cette quête de sens qui quand même passe, enfin, en tout cas, il y a une partie qui passe par le lien à l'autre, le dialogue, quand tu es dans une situation de télétravail et donc potentiellement d'isolement?
Oui, c'est intéressant parce que en fait, je pense que ça nous demande, enfin cette question nous invite sans le savoir probablement à distinguer la relation de l'interaction. C'est-à-dire que là, ce qu'on est en train d'essayer de faire, et ce sera à vous de me dire si c'était satisfaisant, c'est qu'on est on est en interaction. Au sens où notre échange est médiatisé par de la technologie, on n'est pas en présence les uns des autres. C'est remarquablement difficile de donner du sens, de préserver le sens, d'interroger le sens quand on est simplement en interaction. C'est-à-dire que même pour moi, je vais partir de mon expérience, hein, même pour moi, c'est beaucoup moins confortable et d'une certaine manière qualitatif d'échanger avec vous sans pouvoir vous voir comme ça par la médiation d'un ordinateur que si on avait pu se rencontrer en vrai à l'occasion du petit déjeuner de Jeff dans le lieu habituel. Donc, en fait, la question du télétravail, parce que je l'élargis quand même, pose la question de qu'est-ce que ça fait de nos relations et du coup, comment ça affecte la quête de sens. Le télétravail et le distanciel et la digitalisation d'une manière générale, ça transforme nos relations en interactions. Et donc, déjà, d'une manière générale, quand on a la chance de pouvoir être en relation, ce n'est pas toujours évident de prendre soin du sens. Mais alors, quand on est en interaction, la vigilance doit être encore plus grande. Donc, c'est vraiment, c'est une vraie question aujourd'hui. Et je pense que vous, comme moi, vous avez lu les études qui sont faites sur le télétravail aujourd'hui. Quand c'est 100% de télétravail et qu'il s'impose, c'est pas très concluant, hein. Je veux dire, les gens ressentent quand même le besoin, même si c'était limité à 2 jours par semaine, de pouvoir être en présence de leurs collègues. Parce qu'il se passe quelque chose quand on est en présence, ne serait-ce qu'en termes de sens du travail, qui ne se retrouve pas quand nos rapports sont médiés par la technologie.
Et alors justement, si on parle de ce... télétravail. Pour beaucoup, cette crise a été l'occasion un peu de rebattre les cartes de la sphère, enfin la séparation entre sphère privée et sphère professionnelle, avec plus ou moins de bonheur. Et j'ai eu l'impression que c'était l'occasion de mieux apprécier là où en fait tu avais une valeur ajoutée, et donc de pouvoir t'y concentrer. C'est-à-dire que c'est une manière, comme tu l'as dit en introduction, est-ce que cette crise, voilà, nous a pas permis de faire le tri entre ce qui nous occupait dans le cadre de notre travail, mais sur lequel on n'a peut-être pas de la valeur ajoutée, et là où on doit vraiment avoir de la valeur ajoutée. Est-ce qu'il n'y a pas une régénération un peu comme un reset, une remise à niveau grâce à ce moment particulier?
Tout à fait, et c'est exactement ce qu'avait très bien thématisé Arendt. Arendt, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé au concept de crise. Elle a écrit crise de la culture, crise de l'autorité. Voilà, donc elle s'est vraiment interrogée sur ce concept. Et elle dit exactement ça, que la crise vient réinterroger nos fondamentaux, nos valeurs, ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Et elle nous dit voilà, qu'il ne faut pas à tout prix vouloir retrouver, enfin trop vite vouloir retrouver l'avant, le système qu'on connaissait avant. Il faut se laisser un petit peu emporter par ce moment d'ébranlement qui fait que, comme tu me le disais très bien, Hortense, eh bien, on revient à l'essentiel. Simplement, moi, mon point de vigilance, c'est que, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'expérience que vous avez faite, mais on peut dans ce moment-là, en revenant pour nous-mêmes à l'essentiel, se rendre compte qu'effectivement, alors soit notre valeur ajoutée au travail n'est pas là où on la pensait, soit, et je pense que c'est ce qui s'est passé pour un grand nombre de personnes, plus nombreuses qu'on ne le soupçonne, elles se sont rendues compte qu'elles avaient peu de valeur ajoutée. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est-à-dire, quand on a encore le luxe de pouvoir découvrir que la valeur ajoutée de son travail, elle n'était simplement pas là où on le pensait, formidable. Et quand on se rend compte que, finalement, notre travail n'a que peu de valeur ajoutée, et que, alors qu'est-ce qu'on fait? On en crée une autre, vous voyez, c'est ça la difficulté dans laquelle nous met la crise aujourd'hui. C'est que dans les priorités qu'ont mis en place les organisations pendant la crise, ça a fait apparaître plein de choses. Cette repriorisation, ne serait-ce que, vous savez, c'est voilà, qui a le droit à l'accès au VPN pendant combien de temps? Quels métiers sont priorisés? Quelles tâches? Ben ça a fait apparaître tout ce qui, dans une organisation, était invisibilisé par le cours d'action normal, et que là, la crise a montré, finalement, malgré elle, a montré ce qui était essentiel et secondaire. Donc ça peut être très vertueux au niveau de la vie personnelle, là je suis tout à fait d'accord, au niveau des organisations, ça peut être très coûteux.
Et puis il y a c'est intéressant ce rapport entre utilité et joie et ce que tu en tires toi à titre personnel et l'utilité que ça a socialement. Et il y a une sorte de wake-up call pendant la crise et de mise en avant de métiers qui étaient déconsidérés, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, caissier, livreur, voilà, tout ce qui était logistique, agriculteur, c'était en fait des métiers qui étaient utiles au quotidien, qui nous permettaient de vivre et de faire autre chose. Mais certains de ces métiers, donc, ils ont été revalorisés du fait de cette utilité. Et en même temps, certains de ces métiers sont automatisables à court ou moyen terme. Et donc c'est une utilité toute relative, enfin en tout cas et peut-être éphémère encore. Et puis surtout ce que je trouvais étonnant, c'est que souvent quand tu t'engages pour une cause ou tu vas chercher une utilité aussi. C'est-à-dire que l'utilité et le sens, c'est à la fois différent, et en même temps l'utilité est souvent invoquée quand les gens te parlent de sens de leur travail. Et ça reboucle avec une des questions sur la génération Z, pour qui la quête de sens est une priorité. Tu vois, et beaucoup apparemment, enfin on l'a constaté, quittent leur job vite dès qu'il n'y a plus de sens. Enfin, en tout cas, ils sont éloignés de cette quête de sens. Et donc, je sais pas ce que tu penses de cette double utilisation de l'utilité qui est à la fois le repoussoir et en même temps la raison de l'engagement.
Oui, c'est merci, tu le formules très bien. C'est toute l'ambivalence du concept d'utilité. C'est qu'en fait, c'est un concept qui est à la fois absolu au sens où il y a, enfin, je veux dire, l'utilité dans son sens, on pourrait, enfin, l'utilité, c'est quelque chose qui a plusieurs sens aussi, non, mais dans utile, on pourrait déjà mettre ce qui est vital. C'est pour ça que ça renvoie aux métiers déconsidérés dont tu parlais, mais qui se sont révélés essentiels, parce qu'en fait, ils sont liés à la vie, se nourrir et se soigner. Là, je veux dire, là, on est vraiment sur les besoins vitaux. Donc, il y a un premier niveau de l'utilité qui est lié à ce qui est vital. Et puis après, tous les autres sens qu'on pourrait donner à l'utilité, en fait, ils sont relatifs. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais, en réalité, ça varie. En fonction de l'individu, de la génération et des possibilités technologiques. C'est-à-dire que ce qui est utile, c'est aussi ce qui est profitable, notamment au sens de rentable, mais pas que. Et ce qui est profitable aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de choses soient faites par des humains, mais tu le mentionnais très bien, peut-être que demain, ce qui sera profitable, ce qui sera rentable, c'est que ces tâches-là soient faites par des machines. Donc, le curseur de l'utilité se sera déplacé. Et puis, pour terminer, un des sens de l'utilité, c'est aussi ce qui a un sens, c'est-à-dire ce qui a une finalité, comme tu le disais très bien. Et là, en effet, on voit bien que… Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit les jeunes, ils cherchent un travail, enfin, ces jeunes dont on parle, là, ces milléniaux, ces générations Z, ils sont intéressés par le sens, et puis quand il n'y en a plus, ils s'en vont. Ils cherchent quoi? C'est intéressant parce qu'ils cherchent quelque chose qui leur enseigne. En fait, ce que j'ai fini par comprendre en discutant aussi avec ces jeunes-là, c'est qu'on dit que quand ils viennent chercher du sens, ils viennent pas seulement servir une cause, ils viennent aussi apprendre. Le sens, c'est aussi ce qui m'enseigne, ce qui me fait grandir. Et donc, ça pose vraiment cette question de, voilà, est-ce qu'on est capable d'imaginer des organisations qui continue d'enseigner régulièrement, voilà, de faire grandir régulièrement ses collaborateurs. Si à un moment donné, la cause ne suffit plus ou peut s'avérer déceptive parce que justement, ce qui est profitable varie.
Oui, oui, et en fait, cet alignement, parce qu'en fait, d'une certaine manière, le sens du travail, c'est un peu l'alignement, enfin, c'est une manière de le voir, c'est l'alignement de tes valeurs personnelles avec celle de ton travail. Et donc, les entreprises, je pense, ont compris ça là, maintenant, et donc beaucoup travaillent sur leur raison d'être et formalisent ce sens et la raison d'être pour créer une adhésion, en fait, auprès de leurs équipes. Est-ce que la quête de sens, en tout cas, ce que ça veut dire, est-ce que ça évolue pas aussi en fonction de ton âge et de ton parcours? C'est-à-dire que ces jeunes qui abandonnent peut-être très ou trop vite, ils n'ont peut-être pas eu le temps de tester vraiment le sens dans leur travail. Et est-ce que, au fur et à mesure, ta quête de sens, elle change pas, fatalement, parce que tu t'as changé, tu as grandi, tu as mûri et tu n'attends plus les mêmes choses.
C'est intéressant parce que je pense que la réponse est dans ta question.
Souvent.
Non mais oui, et heureusement que le sens qu'on cherche évolue en fonction de au fur et à mesure de notre maturité et de notre expérience de vie. C'est plutôt rassurant de se dire que cette quête peut mûrir avec le temps, et on sait bien, sans être trop caricatural, que quand on est jeune, on est assez idéaliste et donc assez exigeant. Et que quand on commence à être un petit peu expérimenté, on devient un peu plus réaliste et dans son sens noble. C'est-à-dire que encore une fois, on fait cette expérience du travail de la manière dont je le définissais dans mon introduction. C'est-à-dire qu'on finit par comprendre qu'en fait le travail, et là je Ce n'est pas pour donner tort à Spinoza, mais le principe de joie et de plaisir, c'est bien. Mais en fait, quand on grandit, si je puis dire, quand on évolue dans sa carrière, en fait, on revérifie à quel point travailler, c'est d'abord se confronter, c'est d'abord une épreuve transformatrice de soi-même. C'est d'abord se confronter avec un réel qui résiste. Et donc, oui, ça fait évoluer nos attentes, ça fait évoluer ce dont on tire du sens aussi, parce qu'on gagne en profondeur, en tout cas si on s'en donne les moyens. Voilà, donc tu as tout à fait raison. Je pense que, après, moi, ce que j'espère, c'est, et ce qui me semble que la vertu, une des vertus de cette crise, c'est que peut-être elle nous a permis de retrouver le jeune homme ou la jeune fille en nous. C'est-à-dire que comme on est revenu à nos valeurs, non mais tu vois, comme on est revenu, pour certains disaient, à l'essentiel, comme ça nous a fait recontacter un certain nombre de valeurs, finalement, en fait, ça a réanimé une part d'idéalisme en nous, qui est un peu le propre de la jeunesse, et je pense que c'est très bien. Je pense que l'écueil de la jeunesse, c'est justement l'idéalisme, mais au sens de l'irréalisme. L'écueil de l'expérience, c'est un petit peu de résignation quand même, et que là, la crise nous ayant ramené à l'essentiel, ça donne un souffle incroyable. Quand on recontacte ça, c'est incroyable ce que ça peut donner. Il faut absolument préserver ça.
Oui, on a l'impression que l'humain a été un peu remis quand même au centre, parce qu'on a touché tellement à la vitalité et à la mort que tout d'un coup, on s'est rappelé que c'était ça le cœur en fait du réacteur, c'est bien l'humain et pas uniquement le profit, quoi, d'un point de vue économique. Alors il y a aussi pas mal de réactions et de questions sur les différents modèles qui existent et sur les modèles de quête de sens. Et sur le fait qu'il y a eu, même avant la crise, il y avait beaucoup d'offres, si tu veux, dans les ouvrages, des séminaires, de self-help, développement personnel. Quelqu'un a fait un rapprochement aussi entre le modèle japonais d'Ikigai. Est-ce que tu penses que cette crise va changer les perspectives de la manière d'aborder cette quête de sens? Est-ce qu'on va plus être sur le collectif et moins sur le développement dans son coin, je m'achète un livre et je regarde tout seul? Est-ce qu'il y a un nouveau sens dans cette quête de sens?
Alors, on pourrait l'espérer, mais je n'y crois pas trop. Et la raison pour laquelle je pense qu'on va rester en Occident sur des quêtes assez individualistes de sens, c'est parce que l'Occident repose sur un paradigme profondément individualiste. Et que ce n'est pas une crise, si impressionnante soit-elle, qui va nous faire changer de paradigme. Enfin, voilà, ça fait... remettons-nous un peu en perspective temporelle, ça fait jamais que 3 mois qu'on est plongé dans cette crise. Hein, d'accord, le paradigme individualiste qui structure tout notre inconscient collectif, ça fait des siècles qu'il est en place. Donc, évidemment, là, on entrevoit ce que pourrait être une quête de sens collective. Et ça donne envie par moment. Mais et je pense que c'est très bien s'il y a des expérimentations qui se font à cette occasion, mais je ne serais pas du tout surprise. Et je ne sais pas si c'est un mal, hein. Enfin, je veux dire, je ne sais pas juger si c'est bien ou mal. Je ne serais pas du tout surprise qu'on en revienne très rapidement, en fait, à la quête de sens individuel, et donc plutôt à la consommation de livres, de consultations personnelles, voilà, d'accompagnement personnel en tout genre, parce que c'est vrai que l'offre est très riche aujourd'hui. Et là où tu as raison, et où je pense que c'est, pour le coup, là, c'est individuellement qu'il faut se ressaisir de ce dont la crise nous a fait prendre conscience. C'est la chose qu'on oublie plus facilement, c'est qu'on est interdépendant.
Oui.
Donc, oui. C'est, voilà, c'est de voir comment on cultive cette conscience-là de l'interdépendance.
Sur cette question de collectif et de l'entreprise, pour refaire le lien avec l'entreprise, parce que c'est quand même aussi ce qui nous anime beaucoup au sein de JAF, c'est la transformation des organisations. Est-ce que plusieurs personnes souhaiteraient que tu développes un peu cette idée de collectif dans l'entreprise et comment la quête de sens voilà, peut s'appuyer là-dessus? Et il y a aussi d'autres questions qui pointent un peu du doigt l'éventuelle hypocrisie en fait de l'entreprise qui va avoir de nobles déclarations voilà, mais qui derrière, comme tu dis, le paradigme avant qu'il change, peut-être que ça va prendre un peu plus de temps que 3 mois, va toujours être à la poursuite des mêmes objectifs de productivité et tout ça. Est-ce que c'est à l'entreprise de dicter et de décréter du sens via notamment sa raison d'être, voilà, ou est-ce que c'est la priorité de l'entreprise devrait être d'écouter et d'accompagner et de pas démolir les quêtes de sens et le sens qui peut émerger naturellement chez les individus ou au sein d'un collectif.
Alors, merci beaucoup pour cette question. Je suis heureuse de t'entendre m'amener ça parce que je pense que c'est les vraies questions que pose cette crise. Et on n'y répondra pas là simplement en quelques minutes, mais je suis rassurée de voir qu'elle se pose. Voilà, ça m'aurait fait de la peine qu'on passe à côté de...
Non, il nous reste 13 minutes et on n'est pas passé à côté, c'est bon.
non, mais quand je dis ça, passer à côté, c'est d'une manière générale, pas simplement, tu vois. Mais en tout cas, je vais te faire une réponse qui est... c'est pas une pirouette intellectuelle, c'est une vraie conviction, parce que Moi, je suis très inspirée, je lis beaucoup, je m'inspire beaucoup des traditions intellectuelles et des philosophies extrêmes orientales, chez qui, comme vous le savez sans doute, le paradigme est inverse au nôtre, c'est-à-dire que c'est le collectif qui prime sur l'individu. Donc, c'est toujours intéressant de faire le détour par eux. Et du coup, c'est-à-dire, forte de cette inspiration, je répondrai à ta question les deux. C'est-à-dire que c'est intéressant parce qu'il y a des philosophes qui ont dit le sens, ça se quête, c'est-à-dire ça se cherche, voilà. Et d'autres philosophes qui ont dit au sens où ça se cherche, ça se crée, voilà, il faut créer du sens parce que ça n'existe pas nécessairement avant nous. Et d'autres philosophes qui ont dit le sens, ça se dévoile, c'est-à-dire qu'en fait le sens préexiste à la quête qu'on peut en faire et le seul travail de l'être humain, c'est de le dévoiler. Donc là, encore une fois, je dirais qu'il faut il s'agit de le dévoiler à plusieurs. Et pour répondre à ta question dans l'organisation,
Oui. Je
pense qu'il faut les deux. C'est-à-dire que on voit bien que ça ne fonctionne plus le décret unilatéral de sens. C'est-à-dire après, si on s'en tient à ça, après, on se retrouve dans la difficulté de devoir faire adhérer, c'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi c'est tellement difficile de faire adhérer des gens à du sens qui est descendu. Je veux dire, maintenant, poser la question, hein, c'est que en fait, il faut que ce soit une vraie proposition de la part de la direction de l'organisation et en même temps que ce soit participatif. C'est-à-dire que si l'organisation se met à décréter un sens qui ne correspond en rien à là où en sont ses collaborateurs et au cadre de référence de ses collaborateurs, voilà, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas d'adhérence. Donc, en fait, c'est le défi. C'est de trouver le point d'équilibre, c'est qu'il y a un point de rencontre, en fait, entre la vision des dirigeants et quand ils ont encore le temps de l'élaborer, le sens, les questionnements, les valeurs des collaborateurs. Et je pense qu'on n'a pas encore... Je termine juste là, excuse-moi.
Non, je t'en prie.
On n'a pas encore appris à créer ce point de rencontre. C'est compliqué.
Et si on refait quelques pas en arrière sur cette opposition aux habitudes individuelles qui sont peut-être propres d'ailleurs à l'Occident et qui dans d'autres cultures sont peut-être moins présentes et l'importance du collectif, est-ce que tu as pu identifier on va dire ce qui te permet de déclencher ce passage? Cette prise de conscience de l'importance du collectif. Si 3 mois de crise, effectivement, ne sont pas suffisantes, à ton avis, qu'est-ce qui pourrait déclencher cette prise de conscience plus profondément?
le passage du je au nous pour le reformuler.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres des sociétés, parce que des temps anciens qui étaient moins justement sur l'individualisme et plus sur le collectif?
Alors, d'une manière générale, oui, y compris en Occident. C'est-à-dire D'accord. que si on refait l'histoire de l'Occident, en réalité, l'importance donnée au sujet personnel, donc au jeu, J-E, finalement, même si ça fait plusieurs siècles qu'on y est, disons au moins depuis Descartes, c'est Descartes au XVIe siècle qui a entériné ça, en fait, elle est assez tardive. Dans l'histoire de l'humanité, c'est assez tardif. Ça a beau être le XVIe siècle, c'est vrai que jusqu'à très tard, on a fonctionné, la conscience humaine a vraiment fonctionné sur le mode communautaire. Le régime de la conscience humaine, c'était la communauté. Il y avait vraiment cette idée que cette conscience, que de toute façon, seule, je ne survivrai pas. Donc, à minima, j'ai besoin des autres. Et je dépends des autres. Et puis, avec l'évolution de la conscience, de la pensée et des possibilités techniques, il y a la possibilité d'un sujet autonome qui a émergé. Ce qui est intéressant, c'est que dans les cultures qui encore aujourd'hui font primer le collectif sur l'individu, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas de négation de l'individu dans ces cultures-là. Il y a simplement une conscience plus forte de la dette qu'a l'individu envers le collectif. Et une conscience plus forte de ce que doit l'individu au collectif, y compris psychiquement. C'est-à-dire pas seulement matériellement, y compris existentiellement. Et donc, je pense que le chantier qui nous attend, si on veut travailler sur cette prise de conscience, si on veut la pérenniser, cette prise de conscience, de ce passage de l'individu au collectif, comme tu me disais, il y a un chantier énorme à faire sur des conceptions erronées qu'on peut avoir, nous, alors je n'ai pas parlé pour l'Occident en général, mais disons en France, et qui sont liées à sans doute des peurs archaïques.
Oui.
Si on ne va pas travailler à cet endroit-là, on pourra faire des réformes, mais ce seront des réformes éphémères, qui ne dureront pas, je pense.
Mais en fait, il faut passer des droits aux devoirs. C'est-à-dire que si tu te replaces dans un système de devoirs et non pas de droits, à ce moment-là, le collectif prend peut-être plus le pas.
Alors, c'est très intéressant. Oui, il faut remettre, il faut remettre du devoir en face du droit. Je ne sais pas s'il faut... Parce que je pense qu'il faut garder les droits.
Non, mais c'est peut-être une manière de rebasculer sur le collectif.
Tout à fait. Je pense qu'il faut remettre sans doute... plus de devoirs en face des droits, mais ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail de conscience énorme, c'est que ce sens du devoir, si pour le reformuler comme ça, ne soit pas, que ce soit un sens de la responsabilité, mais de la responsabilité joyeuse. C'est-à-dire qu'on n'y arrivera pas si on vit nos devoirs envers le collectif comme une responsabilité pesante. Et que quand on n'a pas de pouvoir, on culpabilise, ça ne fonctionnera pas, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas aujourd'hui. Là, l'enjeu, c'est de passer à une responsabilité joyeuse, et donc c'est en quelque sorte vouloir ses devoirs, et pas seulement ses droits.
Et est-ce que tu penses, alors peut-être que ça s'applique uniquement à qu'il y a une fracture sociale importante là, est-ce que tu penses que le fait que cette crise était accompagnée d'une réduction de nos libertés individuelles, on a été quand même très contraints. Est-ce que le travail n'a pas constitué une sorte d'espace de liberté pour certains?
Ah, c'est intéressant comme perspective. C'est-à-dire que le travail était ce qui nous restait de liberté quand on n'avait plus la possibilité de se déplacer. Moi, je trouve que c'est une perspective assez réjouissante parce que sauf à être démenti, il y a quand même beaucoup de personnes pour qui le travail n'était plus un espace de liberté. C'était le travail qui était l'espace de contrainte et que la liberté, on la trouvait ailleurs, c'est-à-dire dans sa famille, dans ses loisirs. Et donc, je trouve que si cette crise a pu remontrer à certains en quoi et comment le travail peut être un espace de liberté, liberté de respiration, de créativité, de temps à soi. En fait, en quoi le travail peut vraiment redevenir un temps à soi, au sens noble, je trouve que ce serait un des fruits, un des meilleurs fruits que la crise ait pu porter.
Alors, il y a une question très précise. Juste avant, tu parlais de peur archaïque.
Oui.
Est-ce que tu peux préciser à quoi tu faisais référence?
Oui, alors, je m'inspire des travaux de Will Schutz. Je ne sais pas si vous connaissez ce psychologue et psychiatre américain qui a beaucoup travaillé d'abord avec l'armée américaine. Le point de départ de ses recherches, c'était comment on fait bien coopérer un collectif. Donc, il a travaillé d'abord sur la coopération, et en fait, ce travail sur la coopération, là, on est très loin, et là, on est à thématiser ce qu'il appelle les peurs archaïques. Mais en fait, ce sont des peurs archétypales qu'on retrouve, si on cherche un peu, on les retrouve pas que chez Schutz, mais moi, il se trouve que c'est cette pensée-là que j'ai explorée. Et donc, vous savez, les trois peurs qu'on aurait, que tout être humain aurait à des degrés divers, la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné. Donc, rejeté, c'est humilié. Hein. La peur d'être humilié ou rejeté, la peur d'être abandonné et la peur de ne pas être aimé inconditionnellement. Et donc, moi, ce que j'ai trouvé passionnant, j'ai réapprofondi ces trois peurs-là, c'est qu'en fait, c'est des leviers de personnalité, d'action et de choix dans la vie dont on a souvent peu conscience. C'est des choses extrêmement enfouies, mais qui participent beaucoup à nos choix, à nos positionnements et à la façon dont on va vivre les choses, au niveau individuel comme au niveau collectif. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est comment, et là Spinoza nous aide à nouveau, c'est comment, pour ne pas subir ces peurs, on leur donne du sens, justement. Il faut faire sens de ces peurs-là, c'est-à-dire c'est vraiment entendre qu'est-ce qu'elles nous racontent, qu'est-ce qu'elles ont à nous dire sur nous-mêmes, voilà. Et donc, d'une certaine manière, la boucle est bouclée, c'est en faisant l'effort de donner du sens qu'on devient libre, c'est-à-dire qu'on ne subit plus ni l'environnement, et parfois l'environnement vient sous la forme d'une crise, ni ses propres peurs internes.
D'accord, merci beaucoup. Alors, pour une dernière question quand même, parce qu'on en a plusieurs qui sont arrivés sur ce thème, parce que c'est quand même un événement JEF, est-ce qu'il y a une particularité et une différence entre les hommes et les femmes sur cette quête de sens? Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport différent au sens au travail, enfin au sens du travail, pardon?
C'est difficile d'éviter l'écueil des stéréotypes sur ces questions-là.
Bien sûr.
Parce que, je veux dire, moi, ma conviction, c'est que, en fait, tout être humain, quel que soit son sexe, est en quête de sens. C'est une quête qui est plus ou moins libre, consciente et exprimée, mais je pense que c'est une quête qui est partagée. Maintenant, on est quand même, je pense qu'il faut assumer qu'on est dans une société genrée, c'est-à-dire une société qui a entretenu chez les hommes et chez les femmes des tendances, des dispositions particulières, et que c'est vrai qu'on va pouvoir observer que les hommes vont peut-être être plus prompts à un retour à l'action rapidement, et les femmes plus promptes à préserver ce que je prends des catégories philosophiques, l'action et la contemplation, et les femmes plus promptes à continuer à observer le réel, ce qui s'est passé, pour le comprendre. Et je trouve que ça va être une force, là, ces différences de genre là qui sont entretenues par la peu plus d'action peut-être du côté des hommes, et un petit peu plus d'observation, de contemplation, au sens de compréhension du côté des femmes, vont être très utiles. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste dans l'inertie, il faut qu'on se ressaisisse et qu'on agisse. Et en même temps, si on saute à pieds joints dans l'action, on passe à côté des enseignements de la crise et on va créer une nouvelle normalité, encore que je ne sais pas si on y arrivera. En tout cas, on ne créera pas de nouvelle normalité si on ne prend pas le temps de la réflexion, et c'est peut-être pour partie les femmes qui qui nous aideront à préserver ce temps-là.
Ok, merci beaucoup. Est-ce que tu peux redonner la référence du livre, dernier livre cité de Steve Schultz?
Will Schultz.
Alors, Will Schultz.
Je pourrais vous le recommuniquer parce que c'est donc toute sa théorie, il l'a appelé l'élément humain.
Donc, d'accord.
Vous appelez Will Schultz, l'élément humain, vous trouverez très facilement. Il y a une œuvre majeure qu'il a écrite, hein, donc. Et puis vous verrez, en plus aujourd'hui, il y a tout un tas de formations à son approche. Donc voilà, moi je me suis formée moi-même, j'ai trouvé ça absolument passionnant et tout à fait complémentaire des apports de la philosophie.
Bah, écoute, merci beaucoup Marion. Est-ce que tu veux nous faire un petit wrap-up pour
bah, écoute,
il est déjà 10h02, je suis désolée, on a déjà tout dépassé, mais c'est très intéressant, c'est pour ça.
Ben, écoute, moi, je trouve qu'on a vécu un moment performatif. C'est-à-dire qu'on a posé une question sur le sens et on s'est donné une heure. On a quand même 80 personnes qui ont pris le temps avec nous de questionner le sens de ce qu'on est en train de vivre. Et donc, je réitère le fait que je trouve ça rassurant et que s'il devait y avoir une nouvelle normalité, ça devrait en faire partie. C'est-à-dire ménager ce temps ensemble, parce que là, en plus, c'est collectif. Ménager ce temps ensemble pour donner du sens à notre modèle de société, qu'il aille bien ou qu'il aille mal, eh bien, je pense que ce serait très bon que ça fasse partie de la nouvelle normalité.
Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été là. C'était une première et un grand succès. Donc, on était très heureux de cet engouement. On vous retrouve le plus vite possible. On espère soit physiquement, soit on fera un autre webinar pour vous inspirer encore. Passez tous une très bonne journée et on vous tient au courant pour les prochaines actions de GEFT. Bonne journée.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.